Histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. »
Comme dans une grande pièce de théâtre, ce récit comporte 2 actes bien distincts. Le premier se déroule sur terre, tandis que le 2e acte se joue dans l'au-delà. Cette histoire peut être comprise comme un complément de la première parabole du chapitre, la parabole de l'intendant infidèle, tout spécialement le verset 13. « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les théologiens hésitent à désigner ce récit comme une parabole parce que c'est la seule parabole ou le seul récit qui porte un nom, celui de Lazare. Ce qui est certain, c'est que c'est un texte imagé. Le dialogue entre le riche et Abraham est vraisemblablement imaginaire. Jésus met en contraste la vie sur terre et la vie à venir. 2 vies, 2 hommes dont les univers, sont littéralement aux antipodes. Regardons d'un peu plus près ce que le texte nous enseigne sur les 3 étapes incontournables de la vie de chaque être humain. La vie sur terre, la mort, et la vie à venir, la vie sur terre. Nous avons un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche était élégamment vêtu de pourpre et de lin. La teinture de pourpre provenait d'une substance extraite de coquillages dont le coût de production était faramineux. C'est pourquoi on associe le pourpre à la royauté. Le fin lin était également un article de grand luxe. Sa tunique était particulièrement appréciée pour sa douceur. En revanche, rien n'est mentionné des vêtements du pauvre Lazare. Le texte sous-entend que ses plaies n'étaient pas bandées et que l'homme n'était pratiquement pas revêtu. La santé et la nutrition. L'homme riche avait accès à tous les soins dont il avait besoin. Les plus grands éminents médecins s'occupaient de sa santé et de son bien-être. Lazare, quant à lui, était dans un piteux état. Il y avait une immense disparité dans les accès à la nourriture. La table de l'homme riche était garnie des mets les plus succulents et les plus somptueux. Il se régalait quotidiennement. Quant à Lazare, il n'avait rien pour remplir son ventre. La faim le rongeait de l'intérieur. Lazare aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombent de la table de l'homme riche. Comment aurait-il pu être rassasié avec des miettes, me diriez-vous, et à juste titre? Il faut savoir et comprendre que les repas dans l'Antiquité étaient bien différents des nôtres, surtout chez les nobles et les grands de ce monde. Les couverts n'avaient pas encore été inventés. Ils mangeaient avec les mains. Ils prenaient un morceau de viande ou de légumes dans le plat commun et s'essuyaient les doigts avec une boulette de pain. Ensuite, ils jetaient cette boulette de pain sous la table. S'il y avait beaucoup de convives, comme chez l'homme riche, la quantité de pain était considérable. L'homme riche habitait une somptueuse résidence. Sa demeure avec son portail en guise de porte d'entrée et une cour intérieure. Le pauvre lui gisait devant ce portail. Il était ce qu'on appelle aujourd'hui un SDF. Tout porte à croire que Lazare était un mendiant. Voici quelques traits caractéristiques. L'homme riche était un homme prétentieux et extrêmement égoïste, omnubilé par sa personne. Il consacrait sa fortune à satisfaire ses plaisirs personnels, sans jamais se soucier de ceux qui étaient dans la détresse. On ne sait pas grand-chose sur Lazare. La mort. Les deux hommes rendirent leur dernier souffle. L'homme riche mourut accompagné par ses bien-aimés. Sa richesse et son luxe ne retinrent pas la mort. Ses funérailles furent dignes de son rang social. Il reçut tous les honneurs qui lui sont dus. Tous les grands de ce monde étaient présents afin de lui rendre un dernier hommage. Durant la cérémonie d'adieu, des paroles élogieuses ont été prononcées à son égard. Paroles gravées dans la mémoire des personnes présentes. Quant au pauvre, on ne sait rien de son dernier souffle. Était-il seul? Je pense que l'on peut aisément l'envisager, sachant que même les chiens venaient lécher les ulcères, ajoutant ainsi à sa souffrance. Il faut savoir que les chiens, dans la conception d'Orion, étaient des animaux immondes. Le passage ne fait aucune mention d'un enterrement pour le pauvre. Dans le contexte juif, les funérailles avaient une importance capitale. Ne pas avoir d'enterrement digne de ce nom ou ne pas avoir d'enterrement tout court était un déshonneur suprême. Lazare a peut-être été enterré à la va-vite, dans l'anonymat. La vie à venir. Deux hommes, deux destinées éternelles. L'homme riche se retrouvant au séjour des morts, lieu de tourment, qui était associé au feu qui ne s'éteint jamais. Nombreux théologiens affirment que ce lieu de tourment et de feu qui ne s'éteint jamais est une hyperbole. C'est imagé et non la réalité, propos que je partage également. Les flammes sont l'image de la souffrance morale. Le mot grec « hardès » que nous traduisons par le séjour des morts, signifie littéralement le lieu invisible, sans forme et sans apparence, car il échappe au regard des hommes. Le terme hébreu « Sheol » indique le lieu où seront toutes les âmes à l'heure de la mort. En français, nous n'avons aucun terme adéquat pour traduire le « Hadès » ou le « Sheol ». De ce fait, nous traduisons inadéquatement soit par « enfer », soit par « sépulcre ». En réalité, ces deux expressions « Hadès » et « Sheol » indique soit un séjour de bonheur, soit un séjour de souffrance. Chaque âme porte en elle les conditions de l'un ou de l'autre. Le terme « enfer » se traduit plus justement par « vivre pour l'éternité, séparé ou coupé de la présence et de l'amour de Dieu ». Voici ce que le texte nous enseigne sur l'au-delà. Les morts ont une vie consciente. Ils peuvent parler et penser logiquement. Ils ont des souvenirs du passé. Ils ont également des sentiments. Ils restent où ils sont, comme ils sont, et ce, jusqu'au jugement qui déterminera leur sort éternel. Le souvenir de cette vie, avec ses possibilités perdues, persiste. Ce bonheur et ces détresses sont toutes deux conscients. Peut-être vous demandez-vous pourquoi est-ce que l'homme riche se trouve au mauvais endroit, privé éternellement de la présence et de l'amour de Dieu, tandis que Lazare se trouve du bon côté. Il s'agit d'une attitude de cœur. L'homme riche a l'habitude d'être servi. Il a un orgueil surdimensionné. Même dans le séjour des morts, il revendique que Lazare le serve. Il dit « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. » Même après ça, le cœur de l'homme riche n'est toujours pas touché. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare auprès de sa famille. Quelle est l'attitude de cœur de Lazare ? Lazare est un homme extrêmement exemplaire à mes yeux. Tout au long de l'histoire, il ne prononce pas un seul mot. Mettons-nous une minute à sa place. Imaginez un instant. Vous êtes dehors, affamé et bien malade. Vous voyez des gens somptueusement habillés, costard, cravate, fait sur mesure, bien évidemment, en train de festoyer. Ils mangent caviar, champagne à discrétion pour ne pas faire un impair et ne pas dire à volonté, font partie de la fête. Ils rient aux éclats. En arrivant, ils vous voient et savent que vous êtes devant le portail, affamé. Mais ils vous ignorent complètement. Quelle serait notre réaction ? Qu'est-ce qui se passerait dans notre cœur ? Est-ce que la critique envahirait notre cœur et nos pensées ? Peut-être que certains d'entre nous les insulteraient ou les maudiraient. D'autres parmi nous leur diraient « Vous êtes des égoïstes, une bande d'escrocs sans cœur. » Et peut-être que certains d'entre nous accuseraient Dieu de les avoir abandonnés et mis dans une telle épreuve. Qu'avons-nous fait pour mériter toutes ces souffrances ? En dépit des circonstances, Lazare reste silencieux. Il ne se plaint pas, il ne ronchonne pas, Il n'a aucune amertume dans son cœur. Il accepte son sort sans la moindre lamentation. Quel exemple ! Son attitude ressemble fort bien à l'attitude d'une personne de l'Ancien Testament. Je pense que beaucoup d'entre vous savent de qui je parle. Job. Job 1, 21. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lazare, vécu d'innombrables souffrances dans sa vie terrestre, mais dans l'au-delà, il reçut les honneurs célestes. Luc 16, 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Pour le peuple juif, cette expression traditionnelle « emporté par les anges auprès d'Abraham » avait une signification extrêmement importante. Ce sort était réservé aux Israélites fidèles. Dans le texte original, le verset a toute une autre ampleur. C'est une expression reprise par les Grecs, provenant de l'hébraïsme. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? C'est une forme de banquet dans l'au-delà, où les convives sont à moitié couchés sur des divans. Ils sont tellement proches les uns des autres que celui qui se penche en arrière touche avec sa tête la poitrine de son voisin le plus proche. Bien évidemment, la place d'honneur dans un banquet est la place à côté de la personne la plus importante. Ici, il s'agit bien d'Abraham. Lazare a la place d'honneur à côté d'Abraham. Quel honneur il reçoit ! Dans ce passage, quel est le message central de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est la vie à venir ? Ou est-ce qu'on va passer la vie éternelle ? Jésus donne beaucoup de détails sur la vie à venir. Néanmoins, ce n'est pas ce qu'il a à l'esprit. Jésus confronte ces deux réalités afin que son auditoire et nous aujourd'hui prenons conscience des devoirs et des conséquences que cette vie aura sur la vie éternelle. La mort met un point final à nos destinées humaines. La destinée de l'âme est fixée irrévocablement durant cette vie. En d'autres termes, le sort du riche est déterminé par la manière dont il a vécu ici-bas. Le cardinal Baronius disait « L'intention de l'Écriture sainte n'est pas de nous montrer comment va le ciel, mais comment on va au ciel. » Ce n'est pas à cause de son argent que le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Non. Mais envers qui ou envers quoi était attaché son cœur. Son train de vie, son argent et sa position ont pris la place de Dieu. L'Écriture, en particulier la loi, est suffisamment claire concernant les devoirs envers les pauvres. L'homme riche ne se préoccupe ni de Dieu, ni de son prochain. Le prénom Lazare, de l'hébreu Eléazar, signifie « Dieu est mon aide ». Le pauvre attend tout de l'aide de Dieu. Lazare fut accueilli dans le sein d'Abraham à cause de sa confiance en Dieu. Jacques 2,24. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Est-ce qu'on est sauvé par la foi ou est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ? Bien évidemment, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Cependant, nos actes démontrent ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que notre comportement, nos actes, sont en adéquation avec la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire « Jésus est le roi de ma vie », mais est-ce que ma vie démontre concrètement que Jésus, le Christ, est vraiment le roi de ma vie ? Vous savez, c'est quelque chose d'essentiel. Ma façon de vivre ici-bas déterminera comment je vivrai dans l'au-delà, et ce, pour l'éternité. Il ne s'agit pas juste « est-ce que je suis sauvé ou pas ?» mais comment je vivrai l'éternité ? Quels sont mes fruits ? Galates 5, 22, un texte que vous connaissez tous parfaitement bien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous désirons grandir dans le fruit de l'esprit, demandons à Dieu de nous aider et de nous transformer. En ce qui me concerne, j'ai durant de nombreuses années manqué de douceur. J'étais blessante car j'étais moi-même blessée. J'ai travaillé sur moi-même et j'ai demandé l'aide de Dieu. Aujourd'hui, j'entends très souvent des personnes qui mentionnent la douceur qui m'habite. Ça me surprend à chaque fois et ça me touche profondément parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Merci Seigneur. Et vous, quel est le fruit de l'esprit en vous qui ne glorifie pas Dieu ? Est-ce que vous manquez d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur comme moi, ou de maîtrise de soi ? Dieu est fidèle et bon pour nous transformer. Il l'a fait pour moi et il le fera également pour chacun d'entre nous. La clé, c'est l'humilité. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es tellement bon, infiniment bon, que tu ne veux pas nous laisser comme on est, mais tu veux nous transformer de gloire en gloire. Et Seigneur, je te demande que cette matinée ait des répercussions pour l'éternité, que tu fasses ton œuvre en nous afin que nous puissions toujours plus vivre en adéquation avec ta parole, toujours plus vivre en ayant cette éternité devant nos yeux, en sachant que nous allons récolter ce que nous semons ici-bas, Seigneur. Donc merci de venir nous visiter, faire ton œuvre en nous, Seigneur, toujours plus. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci pour qui tu es. Amen.